compliqué. Et puis l'avantage, le grand avantage et l'honneur, ça a été qu'un artiste sonore fictionnalise aussi à son tour. Donc il y a un premier niveau qui était mon écriture, puis ensuite un deuxième niveau qui a été fait par Daniel Martin Boré. Et donc lui, il a remis encore une autre fiction par-dessus à travers des univers qu'on peut entendre sur le site. Donc,
ouais, okay.
Voilà. Donc il y a deux stades de fictionnalisation et de poétisation, je dirais.
Ouais. On va peut-être revenir dessus quand les deux autres sont arrivés. Mais donc, c'est pour ça que, en se disant, ok, cette collection en soi est déjà, les mots sont tellement tintillants, je ne sais pas si
c'est très bien,
que ça fait appel à l'imaginaire, à plein de choses pour nous. Mais. Et la question, c'est ça c'est la question de ce soir. Est-ce que ça fait appel à la fiction, à l'imaginaire? Est-ce que les mots peuvent être utilisés pour ça? Parce que c'est aussi dû au fait qu'ils appartiennent à des langues qu'on ne connaît pas, mais qui sont connues pour d'autres. Donc il y a
leurs origines.
Oui, voilà. Donc peut-être, oui, on a demandé aux trois personnes écrivains de choisir cinq mots pour nourrir le débat, mais peut-être ça serait chouette aussi si vous regardez la liste et choisissez aussi
un mot,
par exemple, et nous aussi. Donc, voilà, c'est la grande affiche là.
Mais c'était en général les gens craquent en public, tu vois, parce que le regard des autres, alors que c'était le balèze tout autour de toi, faire des cercles, tu l'entendais un petit peu, tu dis mais qu'est-ce que tu fais, puis elle repart, c'était super content pendant la projection, après la projection. Comment elle s'appelle?
Camille Lily,
c'est ça?
Elle veut plus trop qu'on l'appelle comme ça déjà.
Camille, elle
le croit. Ouais.
Pour l'instant, après, elle voudra Camille. Ouais. Ou Lily, tout court.
Tes enfants, ça
aussi.
Ils sont plus petits, hein.
5 et 2. Ils sont un peu plus petits.
2 ans, c'est un peu.
Non, elle est pas comme ça. Ouais. Un peu pour rigoler, mais c'est tout. Elle reste toujours avec sa mère, donc elle est calme. Elle ne voulait pas aller en crèche, tout ça.
Ah oui.
Elle est posée.
Ah, elle est posée, ouais.
Mon grand frère fait du karaté. C'est une telle.
Bah, ils disent que non. Mais moi, j'avais interviewé Georges Lebouc, tu vois. C'est elle qui a fait le dictionnaire.
Oui,
c'est moi, mais francophone.
Oui.
Il y a tellement de langues présentes quand on se promène qui font une espèce de rencontre de plein de pays, de cultures différentes. Et on a commencé à les enregistrer, à créer un dictionnaire sonore en ligne avec des mots, des définitions comme les gens nous les ont fournis. Et l'idée, c'est donc que le site web continue à vivre, que les mots sont aussi, peuvent être utilisés pour plein de création ou d'autres recherches peut-être, et que ce livre reprendra donc une sélection de mots de ce dictionnaire, et avec ces réunions comme ce soir, on aimerait bien un peu alimenter la matière, donc qu'est-ce que ça signifie, à quoi ça fait appellation, et on a choisi trois thèmes. dont la fiction ce soir, parce qu'on s'est rendu compte que, comme on ne connaît pas, oui, je n'ai pas encore distribué les feuilles, mais allez-y, comme on ne connaît souvent pas les langues d'origine, les mots font appel à un imaginaire qui est très différent selon la langue et la culture qu'on porte en soi, ou les langues et les cultures qu'on porte en soi. Donc voilà, on a invité plusieurs personnes, dont quatre personnes, qui écrivent, ou qui ont écrit, ou qui ont travaillé avec la matière textuelle, disons, des mots. Et on a l'honneur d'avoir aussi deux personnes du quartier présent comme aussi une porte-voix, on dit ça
Porte-parole,
merci.
Le porte-voix, c'est beau aussi. Donc
voilà, aux écrivains, je vous avais demandé de sélectionner 5 mots qui vous parlent à ce niveau-là. Je propose que on commence par un petit tour. Est-ce que c'est clair?
Oui, c'est clair. Okay. J'avais écouté sur le net en fait
des
livres.
Ouais. J'ai oublié ma liste, mais je peux vite la refaire.
Oui, oui, oui.
Enfin, j'ai quelques mots en tête. Si vous avez les mots, le dictionnaire.
Oui, je vous trouve le dictionnaire et comme ça vous.
Il est là en ligne déjà. Ça.
La dernière ligne.
Ah oui.
Ouais, il y en a deux.
Et donc l'idée ce soir, c'est justement à partir de ces mots, avoir une discussion ouverte, libre. On enregistre la discussion pour par après créer un texte qui reprend des idées qui sont passées par cette table ici ce soir et que vous aurez aussi, que vous pouvez lire avant et commenter avant que ça soit publié. Donc voilà, vous êtes tous membres d'un comité de rédaction maintenant ce soir.
Très bien.
Ouais. Ouais, donc on attend. Je propose de commencer avec un tour de table avec déjà un mot qui ou peut-être ça c'est méthodologiquement je sais pas si, si on se présente déjà avec un mot ou si c'est juste un petit tour de table
par exemple comme les mots je
oui.
Peux prendre
oui.
Moi j'ai retenu le mot anachite.
Bon, à mon avis, à moi, ça veut dire des poésies, je crois. Oui.
Et ça vous a plu pour une raison particulière ou...
Ben, bon, poésie, ça... Bon... Oui, pardon. Donc, j'ai retenu le mot anachide. Et le mot anachide, c'est-à-dire, c'est un mot arabe qui veut dire, en français, c'est-à-dire poésie. Et poésie, ça veut tout dire, bon, je sais pas moi si on veut parler un peu de la poésie.
Ben bah, oui.
Oui. Ben je sais pas moi.
Je croyais qu'anachite c'était une chanson.
Non, non, anachite c'est l'ensemble, c'est le mot au pluriel. Mais le singulier c'est nachite.
Nachite.
Oui, mais anachite ça veut dire des poésies.
Ok.
Oui, et ce sont des poésies en chantant, quoi. Oui. Alors bon, je sais pas pour l'instant, j'ai pas trop à dire.
Non, c'est bien. Okay. Merci. Merci Mohamed.
De rien. Peut-être tantôt.
Ouais.
Ah ouais, alors moi je pensais à un mot qui n'est pas encore dans le dictionnaire, c'est la langue, trois petits points, oiseau. Et donc, du coup, vous n'avez pas pu entendre l'enregistrement. En fait, c'est un enfant à qui j'ai demandé de lire le nom du projet et, en fait, le nom du site. Donc, il a du mal à lire et du coup, au lieu de lire la langue scarbécoise, il lit la langue oiseau. La langue oiseau. Voilà, je trouvais ça très poétique, la langue oiseau.
Tout le langage des oiseaux, c'est une appellation qui existe.
Ouais.
Le langage des oiseaux, c'est quand ce qu'on entend dans le son est directement ce que ça veut dire. Par exemple, il y a un exemple bruxellois qui est le mannequin piece qui s'appelle pas comme ça en vrai, qui s'appelle Julien.
Julien.
Son vrai nom, c'est Julien. Il s'appelle pas du tout mannequin piece. Et Julien, c'est le jus qui fait le lien. C'est la première fontaine de Bruxelles. C'est la fontaine principale de Bruxelles. Voilà, et donc le langage des oiseaux, c'est ça. C'est quand le mot veut dire quelque chose directement. Ouais. Donc, c'est ce qu'il a fait, en fait. Exactement ce qu'il a fait. Quoi.
Donc, moi, je dirais le mot, c'est « hete ». Donc, ça veut dire « le mur ». Pourquoi le mur ? Parce que après ça va donner sur un deuxième mot qui est « mimouna ». Qui est une espèce de repère pour les adolescents scarbécois et les enfants, d'où le festival Mimouna, qui est le festival qui se passe à Scarbec. Et Hété, pourquoi ? Parce que les Hété, ce sont des murs de décoration qu'on utilise autour des tentes berbères. Et en fait, c'est des murs qu'on utilise, nous, quand on tourne et quand on va un peu dans tous les sens, dans Bruxelles ou ailleurs. Et souvent, en fait, dès qu'on croise des scarbécois, ils disent Et c'est le Mimouna, par les décorations de ces murs et tout.
Peut-être tu peux introduire un tout petit peu ta perspective, d'où tu parles, pour ceux qui ne connaissent pas ton travail.
D'accord. Donc en fait, moi je suis directeur artistique d'une troupe de théâtre forain. Et donc on a un chapiteau et on tourne un peu partout en Belgique et ailleurs, à l'étranger, avec notre chapiteau et notre structure. Et en fait, sur Scarbec, on a monté un festival de jeunes qui s'appelle le Festival Mimouna, qui en gros rassemble tous les hivers à peu près 200 jeunes sur scène. Donc ça fait je sais pas combien de personnes. Et donc en fait, le Festival Mimouna, tous les ans, se déplace d'un endroit à un autre dans Scarbec pour 50 000 raisons. Donc l'année dernière, on a dû se cacher dans les entreprises Lockton. Donc l'année d'avant, on était à la gare de Josaphat, et donc voilà. Et en fait, donc notre structure, parce qu'avant tout, en fait, on tourne dans les cités de logements sociaux, on tourne en fait dans les endroits où la culture ne va pas. Et donc à un moment, on a été obligé de mettre des barrières ERAS. Donc c'est des grandes barrières qu'on utilise dans des chantiers qui sont très moches, qui font vraiment ça, j'en cache. Et à un moment, on a réfléchi pour décorer ces barrières, et on a utilisé en fait ces hétés. Et donc on a commencé au début avec un, deux hétés, maintenant en fait on a tout un hété qui vient tout autour de la structure et qui en fait est devenu très représentatif, et ça c'est né quelque part sur nos implantations ici à Scarbec, parce que c'est pas toujours facile et tout, et donc on a dû quelque part, protéger le site et le rendre d'une manière assez décorative et une manière parlante quelque part pour les jeunes.
Et tu peux décrire un peu comment ils sont, ces
hété ? Donc le hété, c'est, on va dire, c'est un tissu, tissu d'un côté vert, rouge, jaune, parfois bleu, vert, rouge, avec une espèce de motif oriental en 8 ou avec des losanges. Et donc ça, normalement, c'était le côté intérieur de la tente berbère. Et le côté extérieur, c'est une bâche blanche avec des losanges noirs et des petits signes un peu en infini noir ou des S. Et en fait, on a inversé, on a mis le côté extérieur vers l'intérieur et le côté intérieur vers l'extérieur parce que c'est beaucoup plus beau et coloré.
Oui, j'ai confirmé. J'ai vu ça quand vous avez mis les chapiteaux sur Scarbec, le bâtiment Hortem. Il n'y a pas si longtemps, il me semble.
Voilà. Et donc voilà, et bêtement, hier soir, on a installé nos camions, on a commencé à mettre nos hété, et t'as deux gamins qui sont arrivés. La Mimouna, je dis, t'es Scarbec, quoi? Il me fait, ouais. Donc.
Il y a quelque chose d'intéressant, ma prononciation de l'arabe est désastreuse, mais il y a ce qu'on appelle les hétistes, notamment en Algérie, ceux qui tiennent les murs. Les chômeurs qui tiennent les murs. Il y a même cette phrase du rappeur Sefiu qui dit « Si les murs de la cité tiennent, c'est parce que tu as le chômage qui va avec. » Et ça me fait penser à ça aussi, ouais. Le fait que tu remarqué ce mot-là. Mm-hmm. Les hétistes, il y a même des amis algériens qui disent en France que c'est eux qui sont les auteurs de la future littérature. Par rapport à tous les mots qu'ils inventent, par rapport à tous les récits qu'ils ont sur tout et n'importe quoi.
Et c'est en France, c'est super courant, tenir les murs.
Tenir les murs,
c'est hyper courant, tenir les murs. Donc en fait, ça vient de hétiste.
Ouais. Maintenant, il y a un mot voilà, qui est entre l'arabe et le français, mm-hmm. puisqu'ils ont pris la déclinaison iste, mais qui veut dire celui qui tient les murs, le hétiste.
J'ai rencontré l'expression aussi tenir le mur dans la base de données de Bruxelles nous appartient, avec le mot Muriel. Donc, c'est des jeunes en fait de Molenbeek, à côté de la gare du Nord, qui ont dessiné sur le mur la silhouette d'une femme qui peut être la femme pour tout le monde. Donc, la femme du mur, c'est Muriel pour tous ceux qui n'ont pas de voilà, ça entre parenthèses. Oui.
Donc moi je pensais au mot anti-crise. Et en soi c'est pas un mot très intéressant, mais quand on a commencé le projet, on a cherché des mots qui sont un peu typiques pour ce qu'on voulait obtenir. Et je pense anti-crise, c'est un nom d'un magasin, José de Helmet, je pense. Et c'est un magasin où ils vendent des choses à un très bon prix. Et je pense que c'est une super idée de dire, ok, le but de notre magasin, c'est, allez, on a une façon à comment résoudre les crises pour les gens, c'est d'offrir des produits à un bon prix. Et je trouve intéressant que ça introduit aussi une action locale dans un discours, dans une problématique plus globale. Je pense que ça, c'est intéressant aussi pour tous les mots. Qu'il y a toujours plusieurs réalités en fait derrière. Donc les mots en soi sont des éléments abstraits, mais il y a des fortes liaisons vers des réalités qui sont très importantes pour les gens. Donc moi je pense à anti-crise comme nom pour un magasin. Ça me dit quelque chose aussi sur l'imagination. L'imagination, ce n'est pas la fiction qui est déconnectée d'une réalité. C'est une façon de s'imaginer la réalité autrement. Et puis, pourquoi tu le fais? Parce que tu penses que le monde peut-être doit changer. Je ne sais pas. C'est une façon de dire, moi, je veux bien que la réalité se change. Et donc, les mots ne restent pas les mots sont aussi une façon de bouger les choses, de faire bouger un peu la réalité. C'est,
On continue tout à fait. On fera tour de table. Moi, j'ai mis en premier sororité pour plein de raisons personnelles, en fait, parce que je vais au hammam à côté de chez moi. Il y a trois hammams à côté de chez moi et c'est le seul endroit où je m'en trouve avec des femmes qui ne sont pas des femmes que je connais. Et donc le mot sororité avait un degré personnel et un petit peu au-dessus de moi. C'est-à-dire, oui, il y a des femmes comme moi, il y a des femmes que je ne connais pas. Sinon, mes copines, tout ça, évidemment, Elisabeth Carbet, que je les vois, sont mes sœurs. Mais ces sœurs-là, ces sœurs symboliques, voilà, j'aimais bien ça. Puis il y a aussi le mot sororité qui est un terme qui est pour moi entre le religieux, donc le côté un peu les sœurs, donc sœurs. Sourire en Belgique, mais il y en a d'autres quand même. Mais aussi le rapport aux autres femmes entre nous, comment on se repère, comment on se regarde dans la rue, etc. Sœurs ennemies, sœurs aimées, enfin, un mélange entre les deux. Puis pour moi, il y avait un côté un peu sorcellerie. Hein, la sœur à qui on se retourne pour poser une question sur le monde, sur la vie, sur soi. La sœur symbolique, hein, etc. Puis un mot un peu désuet aussi, la sororité, donc le lien entre les femmes. On ne s'aime pas trop entre femmes en Occident, on n'a pas beaucoup de liens entre nous. Donc j'aimais bien cette idée de sororité aussi. Voilà, jusqu'à une tendance, là j'ai mis un peu dans la description, donc c'est élémentaire, on est tous des sœurs, on est tous des femmes entre nous, face aux hommes entre nous. Puis un petit côté aussi fondamental, voire fondamentaliste, on n'est qu'entre nous aussi. Donc, qui me pose parfois question dans des groupes de femmes que je vois passer à certaines heures. Je mets mon fils à l'école, donc je vais chercher mon fils à l'école. Donc il y a des groupes de femmes qui sont uniquement entre femmes pour des raisons qui me sont parfois un petit peu. Qui me mettent parfois un peu en question par rapport justement à ces groupes de femmes dans la ville, les groupes de femmes dans le quartier, les groupes de femmes entre elles, les groupes de femmes à la maison, etc. Et donc du coup, moi j'ai fait femme et sœur, je les ai reliées dans mon imaginaire. Voilà.
Oui, pour faire la transition, ce qui, pour rebondir un peu sur ce mot sororité, moi j'ai tendance à comprendre ça comme étant l'échelon manquant de la Révolution française. Parce qu'on a dit liberté, égalité et fraternité. Il me semble fraternité, c'est plus les frères. Hein? Et il me semble qu'on a oublié les femmes. Hein? Les frères, c'est masculin ça. Mm-hmm. Voilà. Et je me dis, ah tiens, il me semble que cette égalité, cette liberté ne concernerait que les frères, les hommes. Encore une fois, une confiscation de l'espace public par les masculins, c'est... Il suffit de répertorier même certains concepts qui traduisent les masculins et ceux qui traduisent les féminins. Il y a parfois des questions à se poser. Les hommes se sont accaparés de l'espace, ont dicté tout. Voilà, les combats continuent, il faudra que cet espace soit récupéré aussi par les femmes. Donc, cette sororité, pour moi, me parle plus. Hein, devait être au même endroit que fraternité.
Et pourtant, l'image de la liberté de la Révolution française, c'est une femme, un seins nu. Voilà, portant l'étendard, etc. Mais
le mot fraternité, c'est-à-dire, ça signifie pas que les hommes. C'est en général hommes et femmes, comme les droits de l'homme, par exemple. Les droits de l'homme, ça ne veut pas dire que l'homme. C'est l'homme et la femme en général.
Pourtant, il y a les droits de l'enfant qui ont été créés par la suite.
Oui, mais il y a aussi les droits de la femme qui ont été créés maintenant.
Mais pour reprendre l'exercice, parce que là, je vais répondre ici sur sororité. Il y a un mot qui me vient à l'esprit, mais je ne l'ai pas vu sur la liste là. Mais on en avait discuté avec Clémentine une fois. Mbila. Et dans l'imaginaire ici, des personnes d'origine congolaise, on a tendance à désigner les policiers par Mbila. Alors le jour où elle m'en avait parlé, j'ai dû dire ce qui me venait à l'esprit. Je me dis, tiens, du Congo, nous venons de... Il y a quatre langues nationales. Il y a le Kikongo, il y a le Chiluba, le Swahili et le Lingala. Mbila, c'est un Lingala. De plus en plus, c'est devenu notre identité linguistique ici, le Lingala. Et c'est des noix de palme. Alors j'avais des difficultés dans mon esprit à me dire quel a été le mécanisme par lequel on est passé de ces noix, de l'image des noix de palme aux policiers. Peut-être que, voilà. Et quand ils disent Mbila Akwei, hein, donc les policiers interviennent par exemple à Matongé, ils vont dire, hein, ils se désignent comme, enfin, ils signalent que les policiers sont arrivés. Et aussi une autre image qui m'est venue à l'esprit, je me dis, tiens, peut-être que leur intervention ressemblait à, je ne sais pas si vous avez ça en Indonésie, les gens comprendraient, au Congo également, où il y a des plantations de noix de palme. Parfois, quand les noix sont mûres, ça tombe. Hein, comment est-ce qu'il faut appeler ça,
Le régime
de noix de palme. Voilà. C'est un peu un mot qui m'interpelle. Hein. Je me dis, ah tiens, pourquoi ils ont désigné les policiers par Mbila? Voilà.
Mais il y a d'autres mots pour policiers dans ce quartier. À Scarbeck.
Par exemple,
poulet. Poulet. Crevettes. Voilà.
Les poulets.
Qui est un animal. C'est les serpents.
Crevettes grises aussi. Pain gris.
Les algues verts.
Après, il y a le bolis.
Déjà, c'est la traduction.
Bolis.
Ça vient
de... Police, boulis. Ils ont, en fait, ça a été arabisé. Antek boulis.
Mbila aussi, c'est l'arbre emblématique aussi. C'est l'arbre qu'on trouve partout. Et c'est un arbre très solide. La fibre d'un palmier, c'est ce qu'il y a de plus solide. Quoi. On attache des les structures de maison avec ça, ça casse pas. D'ailleurs, je me demande si les bottes de menthe, ils attachent avec un trou vert. C'est pas la fibre de palmier.
Ben oui.
Il semble.
Oui. Ouais. Mais c'est pas le même palmier, c'est une variété.
Une variété de palmier. Mais c'est quand même, c'est très solide. Alors, ouais. Si vous remarquez les feuilles de menthe, on les a, c'est toujours attaché. Oui. Là, on sait où on voit d'où ça vient. On voit que c'est pas, ça n'a pas été planté à ce cas-là.
Parce que.
Moi, j'avais retenu 5 mots. Il y avait un mot qui m'avait parlé, notamment, c'est l'utilisation du mot coudron pour désigner ce qui pue, ou ce qui est nocif, ou ce qui est. En tout cas, qui transmet quelque chose de nocif, d'une manière ou d'une autre. Alors, ce qui est intéressant, c'est ce que je n'arrive pas à lire sur ce que j'ai imprimé, c'est que ça vient d'un mot arabe. Alors, ça vient d'un mot arabe, goudron.
Goudron.
Ça vient d'un mot arabe, kadran. Kadran, je crois.
Kadran.
Voilà. Ça vient de ce mot-là. Donc, c'est marrant. On est dans un retour des choses. Et le goudron est intimement lié. Oui, c'est ça, Katran, mais moi je prononce mal.
Oui, Katran.
Comment tu dis
Katran.
Le goudron est intimement lié à toute l'histoire des quartiers populaires, des quartiers ouvriers. Et surtout dans l'utilisation que j'en ai faite là, la personne elle dit voilà, je sens une odeur chimique, je sens une odeur déplaisante, je dis c'est du goudron. Donc ça peut décrire tous les matériaux nuisibles dans lesquels ont été construits les quartiers populaires, ça peut aussi. Évoquer tous les matériaux nuisibles ou leur combustion qu'ont respiré les quartiers ouvriers près des usines dans lesquelles ils travaillaient. Voilà.
Donc, tu sais où il a été enregistré ce...
À côté d'une usine ?
Non.
À côté d'un champ ?
Dans le jardin ouvrier, là, juste à Renavez, au milieu des voies ferrées.
D'accord. Donc,
et en fait, il me parle de la terre et il me dit « Mais moi, je sens une odeur strange ici, ce qu'il est italien. Je sens une odeur strange. Ça sent le goudron ici, ouais. Ça sent le goudron. »
D'accord.
Eh ben
avec l'accent italien, on dirait presque.
Le katran. C'est ce qu'on a aussi dans les espèces de jarres pour boire.
Voilà.
Mais en fait, alors, c'est hyper connu des ados, du moins de mon époque.
Oui.
Parce qu'en fait, ils utilisent ça, du moins à l'époque, quand il y avait beaucoup, j'irais, de trafic d'hashish, et qu'à chaque fois que nous, les gamins, on partait au Maroc avec nos parents dans la camionnette et qu'on voulait ramener notre petit bout d'hashish avec nous, on allait chercher Katran et on mettait dans des feuilles de papier et on emballait parce que le chien ne sentait pas, en fait.
D'accord. Grâce à l'odeur du...
Donc, c'est comme ça que je connais ce mot, tu vois. Mais en fait, parce que le katran, ça a une odeur vraiment bien spéciale parce que c'est bon.
Oui,
en fait, l'odeur, en fait, quand on est en Afrique du Nord, du moins au Maroc, et qu'on a soif, parfois il y a des espèces de grandes jarres en extérieur. Et en fait, ils mettent un espèce de truc noir autour. Et en fait, c'est ça.
Et donc, les dessins, c'est-à-dire autour de la jarre et tout, avec cette matière-là qui s'appelle katran. Mmh.
Donc, ça vient de ce mot-là, mais c'est le goudron tel qu'on le dit ici. Il n'est pas du tout fabriqué dans les mêmes matériaux, heureusement d'ailleurs.
C'est pas la même matière.
Voilà. Mais c'est comme si tu dire une matière noire, c'est ça, tu dis, qui sent fort. Voilà. du coup, je pense que c'est pour ça que le nom a dû dériver, bien que les matériaux qui ont produit cette autre matière sombre, qui est le goudron, ont un sens beaucoup plus terrifiant. Mmh. Voilà. Et qui est vraiment lié à l'histoire des quartiers populaires, à ce qu'ils respirent, à la façon dont ils ont été intoxiqués, dont ils sont encore intoxiqués. Voilà, ça fait penser aussi aux ailleurs, dans le monde, dans les parties du monde où on peut vendre de la pollution, ben voilà, on va se débarrasser de certaines usines occidentales pour se débarrasser de déchets absolument toxiques d'une manière terrifiante. Voilà, ça fait penser à tout ça, cette histoire de cet ouvrier, c'est ça ? Tu dis apparemment, ou un ancien ouvrier
c'est
italien
un ancien
à la retraite,
ouvrier, ouais.
Qui a un jardin ouvrier, mmh. Et dans un jardin, il y a quand même la mémoire du goudron qui vient, qu'il a dû bien respirer dans toute sa machinerie. Micro olfactif a dû bien s'imprégner de ce goudron qui évoque de toutes ces odeurs nuisibles.
Mmh.
Voilà, donc moi c'est ça que je dirais comme mot au premier.
Tu avais encore un commentaire?
C'est un petit truc que j'ai filé au... Voilà, ici, il n'y a pas de goudron. Chez nous, au Congo, on mettait de la graisse de boa, de la graisse de léopard, parce qu'en fait, c'est des ongluants qu'on pense en marché. C'est des ongluants contre certaines...
problèmes de peau?
Enfin, des problèmes, des ongluants pour faire des massages, pour soigner, en fait. Mais seulement quand on met de la graisse de léopard ou bien de la graisse de boa sur un colis où il y a du hashish ou n'importe quel stupéfiant, le chien, quand il sent que là-bas il y a un boa qui traîne, il va même pas approcher le truc. Alors les chiens étaient complètement terrifiés quand ils voyaient un paquet comme ça, ils se cachaient, ils voulaient surtout faire pas de bruit pour que le boa ou le léopard ne l'entende pas.
Même ça, les chiens d'ici.
Ah oui, c'est dans leur gène. Hein, c'est dans... Ah oui, même les chiens d'ici.
Un boa, c'est un boa. Un piton, c'est un piton. Et ils approchaient pas. Enfin, ça c'est une parenthèse, hein, pour les trafiquants ou quoi. Mais sinon, moi j'ai choisi le mot artiviste. Je sais pas ce que ça veut dire, mais c'est un mot qui me parle beaucoup. Parce que pour moi, c'est toute la définition de l'art, en fait. Pour moi, j'ai associé art et activiste. Je trouve que, je crois, je sais pas si c'est exactement ça, mais c'est comme ça que je le vois. Je sais pas si on peut donner des définitions au mot de Skarbek, mais bon, mais moi je le donne comme ça, parce que disons, c'est aussi... C'est très personnel dans le sens que c'est toute ma motivation d'être devenu écrivain. Sinon, j'aurais continué à lire des bouquins, j'aurais écouté Milady Renoir, et j'aurais été très satisfait. Mais non, mais je voulais, parce que j'ai commencé à écrire très tard. J'ai écrit ce livre aussi, j'avais 40 ans.
Mais c'est un livre pour enfants.
Oui, parce que je trouvais que les adultes n'étaient pas assez intelligents pour faire des choses. Et ça, c'est une parabole sur la dictature. Je n'écris que ce qui est politique, je n'écris rien d'autre. Pour les enfants, pour les adultes, j'écris ça, pour le... qui parle de dictature. J'en écris un autre qui parle de migration. Mon dernier roman, c'est Mathématiques congolaises, qui parle de manipulation politique. Que j'avais écrit, il y avait la guerre en Irak à l'époque, quand j'ai commencé à l'écrire. Donc voilà, c'est un peu, pour moi, je trouve que l'artiste doit être activiste, justement pour récupérer des espaces comme... Voilà, toi en plus tu squattes les espaces, en plus tu squattes les espaces, tu te déplaces pour occuper un maximum de place. Et voilà, pour moi c'est toute la définition de l'art gratuit, moi ça me dit rien. Et voilà, il faut récupérer l'espace et trouver un espace de parole et voilà, et parler, agir. Voilà, c'est le premier mot qui m'a touché au cœur.
Ouais. C'est drôle parce qu'en fait, ça a été enregistré ici.
Oui.
La maison est occupée par d'autres, par une autre ASBL, la DIN, et un collectif de femmes étaient en travail ici et elles sont en lien avec un autre collectif au Congo, avec des artistes africains qui sont venus ici travailler avec elles et tous se définissaient comme activistes. Et donc, je leur demandais ce que ça voulait dire, ce mot-là. Et effectivement, ils faisaient des actions dans le quartier. Par exemple, elles s'habillaient en working woman à la gare du Nord, avec leurs mallettes, comme si elles étaient au truc européen, quoi. Et elles offraient de l'argent à manger aux voyageurs. L'argent qu'elles avaient fabriqué et qui se mangeait. Et des choses comme ça, ou alors se déguisant en Blanche-Neige et elles offraient une pomme dans la rue, là, Placide, c'est tout ça. Et après, elles ont invité voilà, des artistes congolais, ouais. Elles ont fait un travail.
Parce que l'art au Congo n'est pas... Il y a un art contemporain qui existe au Congo, il y a des écrivains, il y a des plasticiens, il y a toutes sortes de gens qui travaillent, mais aucun d'eux ne dessine des petites fleurs, aucun d'eux ne dessine la lune. Voilà, la vie, c'est les mœurs, c'est la politique, c'est vrai, hein. Tous les artistes congolais, il n'y en a aucun qui peint ou qui décide pour rien. Moi j'ai fait de la bande dessinée à Kinshasa, mais c'était quand même pour attaquer toujours le pouvoir, on en est toujours là. Et peut-être que bon, nous sommes dans un quartier, j'ai habité Skarbek pas longtemps, une année, nous sommes dans un quartier où les gens doivent se battre, plus qu'ailleurs peut-être, plus que dans certains quartiers. Et je crois que l'art, justement, doit émerger, et il émerge, je crois, de ces gens-là qui